L'émission littérature Radio Campus Orléans avec en direct par téléphone Thierry Hoquet. Bonsoir.
Bonsoir Dominique.
Nous parlons de cyborg philosophie. Ma première question, c'est sur les motivations et comment est arrivée chez vous cette idée, cette envie de travailler sur cyborg, qui est un sujet quasiment pas traité par la philosophie. Alors ma question va être un peu plus précise. Vous expliquez que le premier cyborg est un rat de laboratoire affublé d'une pompe osmotique. Est-ce par la réflexion sur l'animalité que vous êtes arrivé à cyborg ?
C'est une des voies effectivement d'accès, et ça s'est passé en particulier par une personnalité américaine, californienne, qui est celle de Donna Haraway, qui avait à la fois réfléchi sur la primatologie, sur la manière dont la science traitait de nos cousins, les grands singes, et également qui avait publié en 1985 un texte important qui s'appelle le Manifeste cyborg, qui est un texte donc de théorie féministe, une sorte d'intervention féministe qui était à la fois ironique et paradoxale. Et donc l'œuvre de Haraway, c'est une magnifique passerelle entre la question des cyborgs et la question des questions plus générales, plus politiques, d'interrogation féministe, mais aussi des questions, on peut dire, d'ontologie. Alors, quelle est la transition, pourrait-on se demander, entre les primates et les cyborgs? Eh bien, c'est en particulier que les deux se retrouvent dans ce qui a été l'aventure spatiale. Cyborg, donc, c'est un personnage, enfin une figure qui naît dans un article qui propose de penser le voyage dans l'espace. Et les premières créatures qu'on a envoyées dans l'espace, c'était des primates. Des chiens, enfin différents organismes modèles. Et effectivement, sur la photo qui illustre cet article en 1960, eh bien, c'est une souris qui se trouve affublée d'une petite pompe osmotique. Alors cette pompe, elle sert à quoi? Elle sert à réguler l'organisme, et c'est-à-dire à lui permettre de traverser différents environnements, différents milieux, sans qu'elle ait elle-même à s'ajuster, c'est-à-dire l'ajustement est pris en charge par le dispositif technique. Donc on imagine évidemment le gain que ça représente. Si on doit voyager dans l'espace, en particulier si on doit faire de longs voyages, on pourra mettre le corps en léthargie et laisser à tout un dispositif technique la charge de régler, d'assurer, disons, la survie de l'organisme. Donc ça, c'est disons, la première entrée, quoi. Elle s'est faite par cette question de la régulation. J'ai entendu que vous parliez de cybernétique tout à l'heure. Et cette régulation, eh bien, elle s'opère grâce à des dispositifs techniques. Alors le paradoxe, c'est que finalement, le corps se trouve destitué des fonctions que d'ordinaire il assure. Donc on peut dire qu'il est à la fois augmenté, renforcé dans ses fonctions, et en même temps qu'il en est entièrement dépouillé, puisque désormais c'est une machine qui va prendre en charge les fonctions de régulation. J'ai été clair jusqu'ici ?
Vous êtes tout à fait clair. Donc vous avez dressé un rapide historique en passant par l'aventure spatiale et effectivement ce lien entre les primates et les cyborgs. Ça, c'est votre introduction. Et juste après, vous parlez du coup longuement de deux philosophes. Alors que vous dites dans votre introduction que cyborg est une créature qui apparaît d'abord, qui est vue au cinéma, qui est étudiée au cinéma, qui est montrée au cinéma et non pas chez des penseurs et des philosophes. Or, toute votre première partie s'appuie sur un corpus philosophique avec les œuvres de Canguilhem et bien entendu Donna Haraway, dont vous venez de parler.
Alors, effectivement, quand on écrit en tant que philosophe sur un objet comme les cyborgs, c'est à la fois un grand plaisir, mais c'est aussi une prise de risque. C'est une prise de risque d'abord intellectuelle, parce que le champ n'est pas balisé aussi bien que sur d'autres sujets. C'est aussi une prise de risque dans la mesure où eh bien, on peut très vite se trouver à finalement faire des résumés de films amusants ou intéressants ou qui donnent à penser. et à oublier la philosophie. Donc, cette philosophie, elle se manifeste comment dans la figure de Cyborg? Bien, il me semble qu'elle se manifestait de deux manières. La première manière, c'est que la figure du cyborg, elle est une invitation à repenser la question de l'outillage, et en particulier la question de la relation entre l'organisme et ses outils. Et c'est ici que la figure de Canguilhem s'est imposée. Parce que Canguilhem, Georges Canguilhem, donc l'auteur de La connaissance de la vie, avait formulé cette idée que quand on devait penser les relations entre la machine et l'organisme, il ne fallait pas penser la machine comme asservissant l'organisme, il fallait toujours penser l'organisme comme le centre premier à partir duquel la machine ou l'outil se déployait. Donc il y a d'abord des organismes, et puis ensuite ces organismes produisent des outils, et ces outils, disait Canguilhem, qui reprenait là toute une tradition anthropologique ou de philosophie de la technique, eh bien ces outils, disait-il, sont comme des organes extérieurs ou des organes projetés. C'est-à-dire, quand nous devons accomplir une fonction, eh bien l'organisme a des organes intérieurs, le foie, le cœur, etc. Mais il peut aussi recourir à des organes extérieurs, qui sont comme une sorte de prolongement donc de l'organisme. Alors cette idée, elle est très forte puisqu'elle elle crée véritablement une solidarité entre l'organisme et ses outils et ses dispositifs qui en sont comme le prolongement naturel. Alors Cyborg, il intervient comment dans cette affaire? Ben, il intervient au sens où on pourrait dire qu'en apparence, Cyborg, c'est un organisme câblé à des outils ou à des machines. Eh bien, ce serait simplement donc l'organe extérieur qui serait quasiment revenu à la condition d'organe intérieur, c'est-à-dire les machines, les outils, ne seraient plus détachables de l'organisme, mais ils seraient intégrés et câblés. Donc ça, c'est intéressant parce que ça nous permet de dire, finalement, le cyborg, ça serait juste un degré de plus ou une figure nouvelle dans cette aventure millénaire qui fait que, ou qui veut que, les humains produisent des outils ou les vivants produisent des outils. Mais évidemment, si vous avez vu quelques films de cyborg, Terminator ou Robocop, bien vous avez conscience qu'il y a une violence dans la figure du cyborg. Il y a l'idée que le cyborg est comme un viol de l'intégrité organique et que la figure du cyborg se réalise au détriment de la perfection ou de l'harmonie de l'organisme. Donc la question qui se pose ici, c'est de savoir si Cyborg est en continuité ou en rupture par rapport aux formes anciennes de couplage de l'organisme avec des outils. Donc est-ce que c'est toujours un prolongement, un simple prolongement ou une projection d'organes, ou bien est-ce qu'on a passé à un stade ultérieur qui serait celui de la greffe entre l'organisme et ses outils, ses machines, ses instruments? Ça, c'était la première question, et c'est pour cela que j'ai convoqué la figure de Canguilhem. La figure de Haraway, j'ai déjà donné quelques raisons justifiaient qu'elle soit appelée. Le point le plus important pour moi, finalement, c'est la question de la dichotomie ou de la dualité. Cyborg, c'est un terme qui est formé par amalgame. L'amalgame entre cybernétique et organisme. Donc, c'est une manière de gérer la contradiction, ce qui a priori ne va pas ensemble. Cybernétique et organisme ne sont pas faits pour tenir ensemble, et puis dans Cyborg, ils se trouvent coagulés, catapultés l'un sur l'autre et fusionnés en une unité. Et d'un point de vue philosophique, j'ai trouvé ça très intéressant comme manière de gérer la conflictualité. C'est une manière de dire de réconcilier en quelque sorte les contraires, en disant on ne peut pas, il n'y a pas à choisir entre l'un ou l'autre, il faut les faire tenir ensemble, et de fait ils tiennent toujours ensemble. Ce qui est intéressant dans cette figure du cyborg, c'est que les deux contraires qui tiennent ensemble ne forment pas une unité harmonieuse. Cyborg est toujours une figure un peu bancale, un peu de guingois. Donc il faut aussi prendre en compte ce point, à savoir on n'a pas un mouvement, on pourrait dire, dialectique de réconciliation des contraires qui surmontent leurs différences et leurs contradictions. Il y a bien une forme de réconciliation, mais cette réconciliation est spéciale de deux manières. La première, c'est qu'elle est toujours, elle ne conduit jamais à une harmonie parfaite. Il y a toujours quelque chose qui tire à U et quelque chose qui tire à Dia. Et puis, de l'autre côté, la deuxième chose, c'est qu'on n'a jamais accès à un état d'origine. On n'a jamais accès à l'un ou à l'autre terme, indépendamment de l'un de l'autre. On a toujours affaire à cette coagulation étrange entre les deux. C'est-à-dire, Cyborg est le résultat d'une fusion dont on n'a jamais assisté à l'opération, en fait. On n'a jamais assisté à l'opération qui a fait fusionner le cybernétique et l'organisme. C'est comme si toujours il y avait, on pourrait dire même toujours déjà, il y avait toujours déjà eu cette cohabitation. Et sur ce point, c'est intéressant de voir que, précisément, comment dire, le cyborg est un peu une forme de la condition humaine, au sens où il n'y a pas, il nous invite à penser le rapport entre l'organisme et les machines comme l'histoire d'une longue, alors j'ai dit cohabitation, on pourrait dire coévolution. Et c'est quelque chose de très important, c'est-à-dire il ne faut pas penser uniquement les organismes qui utilisent les machines ou les machines qui utilisent et exploitent les organismes, mais il faut penser comment, finalement, organismes et machines coévoluent dans un système qu'on peut décrire comme symbiotique. Donc voilà un petit peu, en quelques phrases, pour résumer l'importance de la pensée de Canguilhem et de Haraway pour essayer de penser philosophiquement ce qui se dit dans les productions culturelles de masse, comme les grands films hollywoodiens.
Alors, vous avez bien expliqué, Thierry Hoquet, que Cyborg casse les dualismes traditionnels, nature-artifice, organisme-machine, masculin, féminin, normal, pathologique, humain, non-humain. Et j'ai trouvé dans votre livre toujours une forme de duo, de dualisme. Donc, il y a deux parties dans votre livre, deux grandes parties très, 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 très différentes. Et vous expliquez bien dans votre introduction que, puisque Cyborg casse les dualismes, voilà, vous avez fait deux, vous avez coupé votre livre en deux. Mais j'y trouve aussi dans votre première partie, donc plutôt analytique sur la philosophie, on y trouve deux penseurs, Canguilhem, Donna Haraway. Dans votre deuxième partie, qui là est une partie où vous développez votre propre pensée, cette deuxième partie à laquelle on va venir, vous développez votre pensée par une dualité de lecture. C'est-à-dire que votre deuxième partie se lit de deux manières. Par une lecture linéaire, si on le souhaite, mais vous proposez un jeu de pistes transversal, une hyper textualité artisanale. Et avez-vous pensé votre livre en termes de dualité à casser ?
Alors, à casser ou à approfondir, ou la véritable question qui m'animait, c'était finalement, peut-on éviter les dualités, les dichotomies, et si on ne le peut pas, comment travailler avec ? Effectivement, au départ, je suis parti de la question du cyborg avec l'idée que j'allais travailler sur des films qui avaient plutôt rapport à des robots. Et puis ensuite, il y a eu la question de l'animal qui est intervenue et la question du féminisme. Donc plusieurs questions se sont mêlées. Mais à partir du moment où je me suis intéressé au mot cyborg et à l'opération qu'il incarnait, à savoir faire tenir ensemble deux termes contradictoires, je me suis intéressé sur ce geste de dichotomie, ce geste de division en deux. Et ce qui m'a frappé, ce qui a été véritablement une sorte de tourbillon qui m'a happé et qui a fait que pendant plusieurs années, j'ai cru que je n'arriverais jamais à finir ce livre, en fait, c'est l'importance, la multiplication de tous ces dualismes. Alors, nous avons beaucoup discuté avec mes collègues à Nanterre, nous avons fait des séminaires sur la différence des sexes, nous nous sommes interrogés comme ça sur toutes ces questions. Certains tenaient que sans la dualité, on serait perdu, on verserait dans la folie. d'autres développaient l'idée qu'il fallait effacer au contraire toutes les dualités afin de faire valoir une sorte de nominalisme ou d'individualisme où il n'y aurait simplement que des différences individuelles qui vaudraient et on ne pourrait jamais les ressaisir dans justement des grandes catégories bien établies. Eh bien, ma contribution un peu à cette grande question de la dualité, ça a été cette réflexion sur le cyborg, c'est-à-dire l'idée qu'on pouvait finalement travailler dans la dichotomie, s'installer dans la dichotomie, sans pour autant l'assumer comme telle. C'est-à-dire que les dichotomies pouvaient travailler dans la contradiction et que finalement, le fait de pouvoir disposer de ces dichotomies pouvait être aussi un facteur d'émancipation. C'est-à-dire on pouvait jouer avec ces dichotomies, on pouvait les subvertir, on pouvait les utiliser dans des démarches ironiques, voire blasphématoires. Et du coup, la dichotomie se trouvait non plus quelque chose dont il fallait absolument se débarrasser pour accéder à un statut véritablement libre ou émancipé, mais au contraire, une structure qui pouvait être pesante, mais dans laquelle on pouvait s'installer pour imaginer des stratégies nouvelles pour travailler à l'émancipation. Et donc s'installer dans la dichotomie, c'était aussi une manière de dire, donc c'est ce que résume le mot cyborg, hein, c'est une manière de s'installer dans la dichotomie, cyborg, et c'est une manière de dire que finalement, il n'y a pas d'ailleurs, il n'y a pas d'échappatoire, et que c'est ici-bas qu'il faut travailler, hein, à l'émancipation. Et donc, travailler ici-bas à l'émancipation, c'est prendre acte d'un certain nombre de dichotomies qui structurent nos manières de voir et nos manières de penser, et simplement essayer de les faire jouer, de les faire travailler, et de s'installer dans ces oppositions afin d'essayer de produire des sens nouveaux à l'intérieur d'elles et à partir d'elles, tout en travaillant en tension, en quelque sorte, entre les deux pôles qui sont proposés par les dichotomies.
Oui, tout à fait, Thierry. Okay. Vous prenez vraiment acte avec ce livre d'un futur avec Cyborg. Vous dites même, page 251, « Cyborg vote pour un monde où l'on n'aurait plus peur de la transformation. » Vous espérez la mutation et l'arrivée de Cyborg pour l'inédit, l'action inédite que cela produira. Est-ce cette excitation du futur inédit par l'arrivée de Cyborg qui vous attire dans lui?
Oui, alors c'est quelque chose, disons qu'on a pu me reprocher de faire un... d'embrasser la condition cyborg comme sans penser finalement à tout ce qu'on pourrait perdre. Pour moi, c'est un peu plus compliqué que ça, au sens où une des questions qui traverse le livre, c'est de s'interroger sur cela, à savoir, est-ce que cyborg, c'est quelque chose qui va advenir, une figure du futur que l'on peut... repousser ou au contraire à laquelle on peut aspirer, ou bien est-ce que cyborg, c'est déjà la description de notre condition et de notre condition la plus banale? C'est-à-dire, est-ce que cet état de cohabitation avec les instruments et on pourrait dire de coévolution ou même de symbiose entre les vies organiques et les vies instrumentales, artificielles, machiniques, etc., est-ce que cet état-là, c'est quelque chose que l'on peut encore empêcher d'advenir parce qu'il n'est pas encore là? Ou bien est-ce qu'au contraire, c'est déjà là, c'est déjà nous? Sur une question comme ça, on a tendance en général, dans la littérature sur le post-humain, à toujours décrire le post-humain comme une sorte de rêve, alternatif, un peu échevelé, auquel il serait encore en notre pouvoir de barrer le passage. Et pour certains même, il est de notre devoir de barrer le passage à l'arrivée de ce monde câblé où l'on n'aurait plus peur, comme je l'ai écrit, de la transformation. Mais en réalité, un certain nombre d'éléments indiquent que peut-être ce choix n'est pas si facile à faire et que nous sommes peut-être déjà de plein pied dans la condition cyborg. Je pense en particulier à tout ce qui concerne les techniques de reproduction. Le fait que la reproduction de l'espèce humaine passe désormais, dans de nombreux aspects, par la médiation de tout un dispositif technique. Alors on peut penser bien sûr à toutes les techniques de procréation médicalement assistée, mais on peut penser également à des techniques beaucoup plus usuelles et liées à la procréation, comme l'échographie, comme le simple fait de couper le cordon ombilical. Donc il y a énormément d'interventions techniques qui font que la procréation humaine, elle ne se passe pas comme la procréation, on pourrait dire, se passe dans une forêt avec des biches. Je ne sais pas, j'imagine une scène quelconque. Mais ce que l'on observe pour la reproduction humaine, on peut comprendre par là que la vie humaine, elle passe par des dispositifs techniques à différents degrés. En tout cas, dans nos sociétés, c'est quelque chose de très clair. Dans certains romans d'anticipation, on pense par exemple à que se passerait-il si tout à coup l'électricité était coupée pendant 24 heures, 48 heures, voilà. Tout ce qui tout à coup disparaîtrait de nos existences si les dispositifs qui produisent l'énergie disparaissaient et que les machines donc qu'ils alimentent se trouvaient tout à coup désactivées, eh bien, je pense que tous ces indices montrent à quel point notre survie même est devenue entièrement codépendante d'un système artificiel et technique, si bien que l'interrogation se pose véritablement, cyborg, est-ce aujourd'hui ?
Nous terminerons par cette phrase, Thierry Hoquet. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Merci.
Merci de votre lecture et de cette discussion.